Culture Vive, Pascal Paradis.
La croisette a son rythme de croisière, comme tous les jours depuis le début du Festival de Cannes. Rendez-vous est pris avec nos cinéphiles maison. Elisabeth Le Quéré, vous nous confirmez que c'est un festival très politique.
Oui, en fait, c'est à se demander, Pascal, si les sélectionneurs n'ont pas voulu faire au président du jury, Sean Penn, un programme sur mesure. L'événement aujourd'hui, c'est le Che Guevara de l'américain Steven Soderbergh. Donc Soderbergh qui est en train de monter en ce moment les marches avec ses acteurs et notamment Benicio del Toro dans le rôle titre. Donc un film fleuve de 4h30.
Mais auparavant, avant de parler de ce film fleuve, le nouveau livre de l'écrivain originaire du Bangladesh, condamné à mort depuis 14 ans par une fatwa, Talisma Nasrin, qui publie De ma prison, Sophie Ekwe.
Ce sont les chroniques douloureuses d'une écrivain malheureuse enfermée entre 4 murs pendant 7 mois et demi.
I was scared sometimes when I was forced to live under house arrest.
J'ai parfois peur lorsque confiné à domicile en Inde, je ne sais pas ce qui va se passer, s'il m'est permis de vivre en liberté, si je suis à même de parler, de dire ce dont j'ai envie, si ma liberté d'expression n'est pas violée, si je peux écrire si j'en ai envie. Et puis il m'arrive de penser que je vais être tué par les fondamentalistes. Je vis une sorte de dépression ici ou en Inde. Mais dans le même temps, je reçois une marque de solidarité et d'encouragement de la part des gens. Alors j'essaie de chasser cette peur et cette dépression pour retrouver à nouveau l'espoir, pour continuer d'écrire et combattre le fanatisme.
Fighting against all kinds of fanaticism.
Peur, dépression, on entend ça dans le grain de sa voix, hein, Sophie Ekwe.
Oui, c'est vrai que c'est un moment très particulier dans la vie d'un écrivain. D'ailleurs, elle se dit très malheureuse. Hein. On trouve ces mots comme ça dans les chapitres de ce livre. C'est un livre tissé d'angoisse, de solitude, embrumé de peur. Elle a peur de plusieurs choses. Par exemple, de quitter définitivement l'Inde parce qu'elle pense être très attachée à ce pays qui n'est pas le sien. Elle a été bannie de son pays, le Bangladesh, il y a 14 ans, chassée. Elle vit en Inde depuis 2005 et elle a peur de repartir encore sur les routes en exil. Et surtout, elle a peur de la mort et elle parle de ce face-à-face avec la mort presque au quotidien. Donc, c'est le portrait d'une artiste qui se meurt.
À ce point-là,
elle parle de cauchemars, de terreur. Elle parle également de ce pays perdu, de l'Inde perdue. Parce que c'est vrai que sur la forme, c'est un livre qui est à la fois un récit de conversation, des vers, hein, comme ça, sur la solitude, la révolte, la colère. C'est aussi des lignes, comme ça, sur le pays, le Bengale perdu. Parce qu'on se souvient qu'avant 1947, avant la partition de l'Inde, c'est-à-dire la scission du pays en Bangladesh et en Inde, le Bengale était un grand ensemble, un pays auquel appartenaient les parents de Talisma Nasrin. Elle n'était pas née, elle n'a pas connu ce grand pays, le Bengale, mais elle ça reste dans ses souvenirs. Donc elle parle de ce pays perdu, de ce paradis perdu qu'elle a envie de retrouver aussi.
Mais il ne reste plus rien chez elle de son combat, de son cri de colère contre les fondamentalismes et les extrémismes, notamment religieux.
Elle n'a rien perdu, mais elle n'a plus la voix, elle n'a plus la force de combattre. Parce qu'elle a peur, comme elle le dit si bien, elle a peur de mourir. Elle a peur de mourir là-bas, comme ici.
Elle est menacée de mort.
Elle est venue à RFI avec, je ne vous dis pas, plusieurs gardes du corps, même jusque dans le studio. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a envie de combattre, elle a envie de retourner, elle a envie de dire ce qu'elle a dit il y a 14 ans dans le livre La Honte, qui lui a valu d'ailleurs plusieurs fatwas. Elle m'a dit avoir subi 7, et on lui a lancé 7 fatwas quand même, en Inde comme au Bangladesh. Donc c'est vrai qu'elle veut retourner aujourd'hui pour critiquer ce fanatisme, l'obscurantisme. L'Inde est un pays de démocratie, mais l'Inde ne peut avancer sans que les lois ne soient progressistes. Donc c'est vrai que dans ce livre, elle en parle énormément, elle en parle de ce patriarcat très fort qui cloisonne, qui tue la voix des femmes, mais en même temps, comment peut-on crier de cette chambre dans laquelle elle est cloîtrée pendant 7 mois et demi?
Alors Talisma Nasrin est venue en France pour la sortie de ce livre. Elle reçoit aujourd'hui même le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, c'est l'intitulé de son prix, des mains de la secrétaire d'État aux droits de l'homme. En même temps, c'est pas seulement le livre qui est récompensé, hein, c'est le combat d'une femme.
C'est le combat d'une femme, c'est la pensée pensée de la femme, parce que le prix Simone de Beauvoir récompense bien évidemment l'œuvre et l'action exceptionnelle de personnes qui contribuent à promouvoir la liberté des femmes dans le monde. Mais aujourd'hui, on se dit, c'est vrai, c'est la militante anti-islamiste et cette écrivaine quand même qui a une plume. C'est vrai que ce livre n'est pas à l'image de ce qu'elle a produit, parce que quand on lit son livre Rumeur de la haine ou La honte ou Bras-le-banc de combat, c'est véritablement des vrais livres, des romans
des grands
écrits,
romans.
Des grands romans qui vont marquer l'histoire.
Oui, là c'est un texte de témoignage qui semble écrit un peu rapidement
et je crois qu'elle l'a même écrit parce qu'elle vient à Paris recevoir ce prix cet après-midi. Donc c'est vrai que elle est distinguée pour son combat, mais en même temps ce talent engagé est une sorte de détermination humaniste d'une femme pour laquelle la liberté reste quand même, et c'est Simone de Beauvoir du coup qui m'inspire cette phrase, eh bien, cette liberté, comme l'a écrit Simone de Beauvoir, eh bien, c'est la fin et le moyen qui reste tout de même à conquérir, parce qu'aujourd'hui, si on la lit, eh bien, elle est très angoissée.
Taslima Nasrin, De ma prison, donc un livre de témoignages publié chez Philippe Ray.
Quand tu veux voir.
Ok, Antoine, action.
C'est aussi bien que chez tes parents.
Chez mes parents, c'est pas pareil. On sent que ce sont des gens qui s'aiment. Mais ici, on voit bien que vous n'avez jamais rien fait pour arranger. C'est mort.
En attendant la Palme d'Or, ce sera dimanche et je crois que les jeux sont ouverts. Retour à Cannes avec vous, Elisabeth Le Guéret. Et un film donc très attendu, c'est Le Che de Steven Soderbergh. On en parle, me disiez-vous, depuis 48 heures.
Oui, c'est assez étrange parce qu'aujourd'hui était une journée assez creuse pour les festivaliers. Alors on pourrait croire que Gilles Jacob, le président du festival, a eu pitié de nous avant de nous faire entrer dans ce film fleuve de 4h30 sans pause ni entracte. Enfin, quand même une toute petite entracte d'un quart d'heure où, nous dit-on, on servira aux festivaliers des boissons et des friandises. Alors il faut quand même rassurer les spectateurs, puisque quand eux verront le film en salle, ce sera un diptyque, 2 fois 2 heures environ. Alors première partie, l'épopée cubaine du Che, au cours de laquelle il gagne ses premiers galons auprès de Fidel Castro et devient un leader de la révolution. Deuxième partie, le Che renonce au pouvoir et aux honneurs pour poursuivre son idéal révolutionnaire dans la jungle bolivienne. Alors le Che, comme tous les personnages mythiques, a beaucoup influencé le cinéma. Parmi les films les plus connus qui lui sont consacrés, on peut cité en 1969, Che de Richard Fleischer, donc tourné avec Omar Sharif dans le rôle titre et Jack Palance dans le rôle de Fidel Castro. Non, je ne plaisante pas. Et puis, il y a 4 ans, Diarios de Motocicleta de Walter Salles, montré à Cannes. Cette année, Walter Salles revient sur la croisette avec un nouveau film, Ligna de Passe. Et Bérénice Balta, qui l'a rencontré, n'a pas pu s'empêcher de lui demander ce qu'il pense et attend de cette nouvelle version Made in Hollywood, des aventures d'Ernesto Guevara dans la jungle.
J'espère que le film va enrichir la discussion autour d'un personnage tellement pluriel et aider à enlever un peu l'aura mythologique qui existe autour du personnage pour découvrir la vraie humanité qu'il avait vraiment. Alors, ce que j'ai fait, c'est l'histoire avant l'histoire avec un H majuscule. C'est comme si je m'étais intéressé à l'histoire du Christ entre 3 et 30 ans. Vous voyez, c'est celle où on ne connaît pas. Et c'est un peu le moment où une passion se dévoile. J'ai toujours été intéressé par ces moments-là, ces moments de début de transformation, si vous voulez. Ce que Soderbergh amène, c'est l'histoire avec un H majuscule qui est beaucoup plus complexe et je lui souhaite une extrême chance là-dedans. Je suis certain, c'est un cinéaste de talent, vraiment de grand talent, avec un acteur qui est passionné par ce projet pendant 10 ans, qui est Benicio del Toro, qui est un grand acteur. Je pense que vous verrez qu'il sera un des concurrents les plus importants pour le meilleur rôle masculin, c'est certain de cela. Et il faut applaudir Soderbergh d'avoir fait un film en espagnol, parce qu'ils étaient en doute au début. Pour un cinéaste nord-américain, faire quelque chose qui ne soit pas en anglais, c'est pas évident. Il a eu le courage de le faire et voilà, je l'applaudis ici.
Je projet qui a mis 8 ans à se montrer. Donc au départ, c'était un film initié par Benicio del Toro, l'acteur, et sa productrice, Laura Bickford. Et dit-on, Steven Soderbergh n'est arrivé que plus tard sur le film. Mais voilà, on dit que le réalisateur américain cultive depuis plusieurs années une passion pour le personnage de Che Guevara, donc il n'a pas dû être très difficile à convaincre. Je le disais, c'est donc un festival très politique cette année. On l'a vu hier avec le nouveau film de Clint Eastwood, L'Échange. Alors en apparence, c'est un mélodrame autour d'une mère qui perd son fils. En fait, c'est un film extrêmement ambitieux où Eastwood montre toute la corruption de la police, la corruption des magistrats. Dans une scène, on voit un homme, en fait un serial killer, qui va être pendu au moment où on le cagoule. Donc effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser aux images qui ont été si diffusées d'Abu Ghraib. Même si l'histoire se passe dans le Los Angeles des années 20, on ne peut pas s'empêcher de se dire, ça y est, le grand Clint a enfin fait son film contre l'administration Bush et la guerre en Irak. Alors l'histoire, c'est celle de Christine, incarnée par Angelina Jolie, une jeune mère célibataire. Son fils Walter, 9 ans, disparaît. Quelque temps après sa disparition, la police se présente avec un autre petit garçon de 9 ans qui prétend qu'il est le fils de Christine. Donc moi, ce qui me fascine en fait dans ce film de Clint Eastwood, c'est qu'on démarre par un échange d'enfants pour partir vers quelque chose de plus noir, de beaucoup plus philosophique, puisqu'en fait, cette femme, Christine, va devoir affronter le mal et elle va trouver dans cet affrontement, qui est à la fois un affrontement avec la police et corrompu et avec ce serial killer, une façon de survivre à cette douleur terrible, la perte de son fils. Donc ça devient vraiment le motif de ce 61e festival de Cannes, les échanges de personnes, la marchandisation des corps et surtout cette idée qu'on part d'une forme de réalisme social pour arriver vers une autre forme d'échange, mais cette fois-ci complètement métaphysique. Donc Le silence de Lorna, des Belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, lui aussi reprend ce thème. Extrait.
Tu me fais peur, Lorna.
Pourquoi ? J'ai rien fait contre toi.
T'as pas à faire ça. T'as pas à aller voir les flics.
Et si ça marchait?
T'as pas à faire ça. T'es sa femme, tu t'occupes de lui, mais possible, le reste c'est mon affaire.
Tu ne me fais plus confiance?
Je suis obligé, j'ai besoin de toi.
Voilà, donc en fait, Lorna est une jeune femme d'origine albanaise qui conclut un mariage blanc avec un drogué, Claudie, joué par Jérémy Régnier, un acteur familier des frères Dardenne. En fait, Lorna fait partie d'une sorte de gang qui a décidé de tuer ce drogué en provoquant une forme d'overdose, puisque ce drogué pourrait devenir un témoin gênant. Donc là encore, on commence par une femme qui est dans le pur échange capitalistique. Tout le début du film, c'est des échanges, je te paie, tu me paies. Même l'obtention de la nationalité belge se calcule en espèces sonnantes et trébuchantes, jusqu'au moment où la culpabilité lui tombe dessus. Elle part dans un délire, elle croit qu'elle est enceinte en fait de Claudie, ce mort, et voilà le commentaire des deux frères cinéastes.
L'homme mort qui est le père de l'enfant qui va naître. Et elle, ce serait simple pour elle aussi, à cet échange, ce serait trop simple. Mais c'est beau qu'il ait lieu. Mais ce serait trop simple, donc on a voulu être un peu cruel et ironique aussi avec elle, avec notre personnage, et lui faire en sorte que cet enfant, qui pourrait d'une certaine façon poursuivre l'existence aussi de Claudie, eh bien cet enfant, il est imaginaire. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, et que quand nous spectateurs nous le savons et que nous la voyons... Comment vais-je dire, nous avons protégé cet enfant imaginaire, je crois que c'est d'autant plus beau pour le personnage. C'est un accès à une sorte de folie. C'est...
Oui, mais qui est la condition de sa survie.
Tout à fait, et qui est le fait que, qu'elle accède à plus d'humanité, elle accède à l'humanité en accédant à une culpabilité, et cet enfant, c'est sa culpabilité, ce n'est pas son rachat, elle reste coupable, c'est ça. Mais elle est quand même apaisée aussi. Elle peut dire dors bien. Elle a l'impression qu'elle va pouvoir protéger quelque chose quand même dans tout ce fiasco auquel elle a participé. Il y a quelque chose qu'elle a pu sauver. Il y a une sorte de survivant de tout ça qui est l'enfant qu'elle a dans le ventre. Et voilà. Et pour elle, l'histoire continue.
Qu'est-ce que j'ai un enfant? Moi, bébé.
Bébé André.
Non, moi, bébé, pas de toi.
Mariage, yes, baby.
Non, toi, juste mariage. Moi, baby.
Alors, c'est fascinant parce qu'on a l'impression que cette année, une bonne moitié des films pourraient s'appeler, à l'instar du film de Clint Eastwood, L'échange. Alors là, dans Le silence de Lorna, effectivement, on est dans un registre très métaphysique, puisque, encore une fois, via cet échange, va se rejouer la lutte éternelle entre le bien et le mal, avec cette jeune femme qui donc va accéder au registre de la culpabilité. Dans le nouveau film de l'américain James Gray, eh bien, même chose, mais là, dans un registre d'apparence beaucoup plus basique.
This is the best we have at this price.
I just want to be right.
Of all the rings, I think this is the best choice.
Yeah, it's nice. I want it.
Very good, sir. You'll be using a credit card?
Yes.
I'll get you your receipt.
Alors Sophie Thorlotin a demandé au réalisateur, l'américain James Gray, si Two Lovers, deux amoureux, était un conte de fées.
C'est fantastique. En fait, j'avais pensé au film comme à une fable, une histoire très simple, dite, j'espère, avec élégance et sobriété, et avec émotion. Je ne voulais pas d'une histoire très ancrée dans le monde contemporain, par exemple d'une histoire pleine d'ordinateurs. Je voulais un film très simple, que le spectateur puisse voir et aimer comme si tout se passait il y a 50 ans.
So you want to keep it very simple and mythic. And I guess in that way, yes, it's quite true. I had never conceived of it in a little.
Je n'ai jamais pensé à une histoire de chevalier et de princesse, mais c'est vrai qu'il veut garder le personnage de Gwyneth Paltrow à distance pour qu'elle reste l'objet de son désir. Évidemment, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, mais bon, après tout, nous sommes tous des êtres humains, gouvernés par les lois de l'inconscient.
We're ruled by the unconscious, you know. So that was part of the inspiration for that.
So what do? You work or?
Yeah. I work at a law firm.
You're a lawyer? I went to law school. I mean, I didn't finish, you know, I'm not a real lawyer.
No. I'm not a lawyer. I'm just an assistant.
Alors, comme son titre l'indique, Two Lovers, deux amoureux, est avant tout une histoire d'amour. Cela dit, pour revenir à la thématique politique de ce 61e Festival de Cannes, c'est peut-être aussi un film à consonance politique, puisque le personnage principal, qui est exceptionnellement joué par l'acteur Joaquin Phoenix, à la trentaine, vit toujours chez ses parents, et à un moment donné, il dit qu'il est rentré depuis 4 mois. Alors, rentré d'où, on ne le sait pas, mais peut-être de la guerre en Irak. Pour revenir sur l'histoire du film, on peut dire que c'est un film qui se rejoue la vieille histoire, en tout cas la plus vieille histoire du monde. C'est un jeune homme qui est partagé entre sa fiancée brune et sa voisine, la sublimement blonde Gwyneth Paltrow. Et effectivement, via ce partage entre deux femmes qui se ressemblent quasiment comme deux sosies, sauf que l'une est brune et l'autre blonde, eh bien c'est un jeune homme qui va devoir choisir entre sa famille, puisque sa jeune fiancée brune est juive, comme sa famille est juive et que les deux familles ont d'ailleurs du commerce à faire en commun, et ce fantasme incarné par la blonde Gwyneth Paltrow. On peut terminer avec les impressions que Bérénice Balta a recueillies auprès de Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes. Donc à mi-parcours du festival, elle lui demande ce qu'il en pense. Apparemment, il est plutôt satisfait.
Je crois que le festival se déroule vraiment pas mal. On avait souhaité que ça se ressente sur le cinéma, c'est le cas. Je trouve que les gens sont très professionnels, très sérieux. Il y a beaucoup de monde dans les salles parce que le temps est incertain. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et moi, les films que j'ai vus, je ne les ai pas vus tous parce que je n'ai pas le temps, me font tous réfléchir, m'émeuvent, m'intéressent. Et donc je trouve qu'on a une sélection variée. Et donc j'attends la fin et le palmarès avec à la fois confiance et en même temps toujours la petite fébrilité. Vous savez, ou bien vous montrez toujours les films des mêmes. Et alors on vous dit non, mais c'est toujours les mêmes films, c'est les abonnés, c'est les habitués. Ou alors vous montrez, vous essayez de découvrir une nouvelle génération, et là on vous dit non, mais alors où sont les grands maîtres, ils sont pas là, qu'est-ce que c'est que ce festival? Donc il faut en montrer des deux. Et je crois que c'est ce que Thierry Frémaux a fait, il y a à la fois des grands maîtres et à la fois des découvertes, des nouveaux venus.
Et on se quitte avec la musique du film Salamandra de Pablo Agüero, projeté ce soir à la quinzaine des réalisateurs.
Merci Elisabeth Le Curé pour cette lecture transversale du Festival de Cannes Culture Vive avec Florence Ponce, Nicolas Spiga à la réalisation, Jean-Frédéric Etienne à Cannes. On se retrouve demain, bien à vous.